Alors bonjour à tous, aujourd'hui en fait je vais vous parler de vidéo, parce qu'en fait j'ai eu l'occasion de répondre à quelques questions sur le blog Vidéotelling, où en fait la question c'était comment obtenir une audience engagée et donc plus de chiffre d'affaires avec des vidéos. En fait c'était nos petits secrets pour comment avoir plus d'engagement et avoir des vidéos qui réussissent. Et c'est vrai que j'ai bien aimé l'exercice puisque moi je le disais quand je l'ai dit en fait au blog de Vidéotelling que finalement j'étais pas un spécialiste moi de la vidéo, mais finalement j'avais réussi à faire pas mal de trafic et quand j'ai regardé mes stats je me suis rendu compte que j'ai quand même quelques vidéos qui font pas mal de vues, j'en ai à plus de 100 000 vues. Et bon, c'est pas des masses, hein, c'est pas la majorité, mais j'en ai quand même quelques-unes. Et j'ai noté quelques petits trucs qui marchaient bien. Et je voulais justement les partager dans cet article-là, dans cette vidéo. Et ce qui était intéressant, c'est que y a d'autres personnes que je connais bien et que j'apprécie beaucoup qui ont aussi répondu à ces interviews. Donc en particulier, il y a Steph de stratégiemarketing.com qui fait des excellentes vidéos depuis des années. Donc si vous voulez voir des belles vidéos explicatives, allez sur stratégiemarketing.com. Et donc Steph a donné quelques petites astuces aussi. Lui en fait c'est vrai, c'est trois astuces, c'est tout simplement qu'il y ait de l'émotion. Comme il dit, émouvoir, ça veut dire hors d'eux, ça veut dire mouvement, donc inciter à agir. Donc il dit toujours qu'il faut faire rire, pleurer, déclencher de la colère éventuellement. D'ailleurs, moi je dirais que c'est souvent plus la colère qui fait agir que quelque chose qui est positif. D'ailleurs, il y a pas très longtemps, j'étais en interview avec Thomas Gazio qui m'a interviewé dans le domaine aussi de la vidéo. Et c'est vrai qu'on partageait quelques petits trucs et astuces ensemble. Et je lui disais, tu sais, il y a pas mal de gens maintenant qui surfent en fait sur entre guillemets la haine ou sur la notoriété d'autres personnes en disant voilà pourquoi j'aime pas telle vidéo ou pourquoi les formations par exemple c'était pourquoi les formations de dropshipping sont des arnaques et en fait il vendait sa propre formation en disant ça ouais tous les autres c'est des formations de dropshipping de merde et il donnait les noms et il mettait même la photo d'une personne qui vendait des formations dropshipping dans sa vidéo donc vous voyez il était en train de surfer là-dessus. Il y a d'autres personnes également que j'ai vues qui étaient en train de dire mon avis sur la formation de Bidule, qui était vraiment des formations hyper connues, achetées par plein de monde. Et lui, à la fin, il disait, bah voilà, si ces formations n'ont pas réussi, moi, en fait, je vous propose un coaching privé, blablabla. Donc, en fait, il surfe là-dessus. C'est une sorte de growth hacking, puisqu'en fait, ils sont en train de se servir de la notoriété de certaines personnes pour attirer des prospects. Voilà. Alors la seconde, ce qu'il disait, c'était faire de la polémique. Et c'est vrai que il y a quelques marketeurs français qui sont très connus pour cela, qui disent pourquoi par exemple le Bitcoin c'est nul, pourquoi en fait l'intelligence artificielle ça marchera jamais, etc. etc. et qui ont une opinion très tranchée, qui font qu'en fait qui vont générer, cristalliser en fait des émotions, et ça va un petit peu générer de l'interaction. Les gens vont dire non j'aime pas, etc. Il n'y a pas très longtemps j'ai eu le cas de figure avec Stéphane Mallard, qui fait souvent des interventions sur l'intelligence artificielle, et il a une opinion vraiment hyper tranchée. Et quand on l'écoute faire une intervention, waouh, on est un peu scotché, on se dit merde, ouf, là, l'intelligence artificielle, ça va nous foutre vraiment un coup de pied dans le cul. Et c'est vrai que son discours a fait qu'il est recommandé maintenant par énormément de personnes, parce que c'est un orateur qui est vraiment, qui fait passer un message, etc., et qui a une opinion hyper tranchée. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et on peut d'ailleurs le reprendre partout, par exemple dans mon groupe. Les community managers francophones, il y a plus de 5 000 personnes, et c'est vrai que pas plus tard que hier, il y a une personne en fait qui a fait un petit sondage. Donc, encore une fois, il faut faire interagir la communauté, les faire réagir. On parlait de ça juste avant, hein, émouvoir. Et ben en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un petit sondage, non, mais qu'est-ce que vous pensez des QR codes? Est-ce que c'est mort ou c'est pas mort? Et il y a eu, c'est un des statuts qui a eu le plus de commentaires parce que les gens s'étaient engagés sur un truc aussi con que les QR codes qui n'ont plus rien à voir avec le community management ou presque, et ben pourtant en fait il y a tout le monde qui donnait son petit avis, etc. Donc l'engagement, là bien sûr on parlera pas de mauvaise foi ni de polémique sur les QR codes, quoique ça peut être un petit peu un sujet de polémique, mais tu as également Franck Gauthier de Digital Corsair qui est vraiment très doué là-dessus, qui souvent a dit dans ses interventions sur LinkedIn en particulier, sur Twitter, etc., mais en tout cas sur LinkedIn il est très fort, et dit voilà mon avis sur social selling et des choses comme ça, et ça attire l'engagement parce qu'en plus il note et il incite des gens à répondre dans les commentaires, il les cite, hein, il les tag, et en fait les gens qui sont là-dessus disent bah voilà quel est ton avis? Ah bidule bidule, et forcément ça fait interagir les gens qui sont intéressés par cette thématique-là. Voilà. Le dernier point, tout simplement, c'est l'engagement, comme il disait. C'est prendre le soin de répondre, mettre des pouces en haut sur les commentaires, répondre aux commentaires rapidement, etc., etc. Voilà, ça, c'était Steph, des conseils très classiques, mais qui fonctionnent extrêmement bien. L'autre que j'ai bien aimé, c'était Ludovic Salen. Alors, je vous ferai pas tous les commentaires, parce qu'autrement, on va y passer des heures. J'aimais bien, en fait, Ludovic Salen, qui rappelait, en fait, de rajouter des sous-titres à ses vidéos. Alors, c'est un peu fastidieux, pas forcément très simple, mais en fait, activer les sous-titres et les ajouter, c'est vraiment intéressant. Ensuite, il disait parler de la cible, mais ça, c'est quelque chose qui est assez classique. Autrement, Rudy Villard, que j'aime beaucoup, qui travaille sur Web Marketing Conseil, qui est maintenant à Bordeaux d'ailleurs, Rudy. Donc vraiment, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il indique en fait que les commentaires sont vraiment essentiels. Il préfère en fait faire des vidéos virales et il dit qu'il est vraiment important de travailler à la fois la quantité et la qualité. Et ça, c'est quelque chose que j'ai changé il y a quelques temps de cela. Avant, je faisais bon, allez, quoi, une vidéo de temps en temps, je faisais des séries d'interviews et des choses comme ça. Maintenant, je me suis imposé un rythme d'au moins une vidéo qui est aussi transcrite en podcast, je vous en dirai tout à l'heure, une fois par semaine. C'est mon rythme. Toutes les semaines, je fais au minimum une vidéo. Parfois, j'en fais un peu plus, là comme cette semaine, mais c'est une semaine pour donner en fait déjà un rendez-vous à mes lecteurs. Et deuxième chose, parce que tout simplement, il y a une notion de volume. Si vous voulez être visible sur YouTube et mais également en tant que podcast ou n'importe quoi, il faut avoir un rythme, il faut avoir une récurrence et tout ça. Voilà. Donc, il faut également essayer de mettre de l'émotion, mettre du montage, comme le disait bien Rudy. En vidéo, c'est vrai que moi, j'ai un peu tendance à faire long. Il y a pas mal de gens qui me disent tes vidéos sont un peu longues, etc. Tes podcasts sont un peu longs, mais c'est ma marque de fabrique. C'est les gens, s'ils m'aiment bien, si vous m'écoutez, c'est parce qu'en fait, vous aimez bien ce que je dis. Et pourtant, quand on a des vidéos longues, eh bien, il faut savoir en fait essayer d'animer et dire des choses. Là, vous voyez, là, je suis en train un petit peu de ramollir le truc. D'ailleurs, si vous mettez un petit, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire si c'est des vidéos, vous les aimez bien longues ou courtes, hein. Parce que moi j'ai tendance à les mettre longues parce que j'aime bien, mais si vous voulez encore des vidéos longues et si vous préférez des vidéos plus courtes, dites-le moi, j'aimerais bien avoir votre retour. Donc mettez dans les commentaires du podcast ou sur YouTube, mettez-moi un petit commentaire là maintenant, ça m'intéresserait de savoir un petit peu votre avis. Parce que si vous me dites non, j'en ai marre des vidéos longues, fais-moi une vidéo de 5 minutes comme tous les autres, bon ok, j'arrêterai de faire mon petit format à moi. Si vous me dites ouais, j'aime bien les formats longs, je continuerai à faire les formats longs. Hein. C'est un peu vous qui décidez. Donc voilà, donc il disait le son image est important et pourquoi je disais ça? Parce que sur YouTube il faut avoir un rythme. Si on n'a pas un rythme qui est important, les gens décrochent. Et c'est pour ça en fait que souvent les gens préfèrent mes podcasts pour mes formats longs. Pourquoi? Parce que quand on est dans un podcast, en fait on est dans les transports, on est dans sa voiture, puis finalement on a du temps à perdre et puis on passe souvent en accélérant en vitesse 1,25 ou des choses comme ça. Tandis que si on regarde, quand on regarde une vidéo, on est devant son ordinateur, on lance la vidéo puis on fait quelque chose d'autre. Et puis au bout d'un moment, de toute façon on a perdu un peu le fil parce qu'on n'est pas capable de faire les deux en même temps. Moi, c'est quelque chose que je me suis rendu compte il y a quelques années. J'étais consultant à temps plein et en fait, j'avais un peu tendance à la maison à écouter des documentaires en même temps que je bossais. Puis je me disais, ouais, comme ça, en fait, je peux faire les deux. Sauf qu'en fait, notre esprit, il est pas fait pour ça. On n'est pas multitâche, on ne sait pas faire plusieurs choses en même temps. Qu'est-ce qu'il sait faire notre esprit? Il sait passer très rapidement, éventuellement, d'une tâche à une autre. C'est-à-dire qu'il peut écouter le documentaire, revenir à votre travail, écouter le documentaire, revenir à une tâche. Et en fait, quand j'étais comme ça, je me disais, mais merde, mais Fred, t'avances pas sur ton boulot. Quand tu étais avant salarié, que tu faisais ton boulot de consultant uniquement le soir, et tu étais vachement plus productif. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que forcément, mon attention était détournée. Et là, donc, depuis ce temps-là, qu'est-ce que je fais? Et je mets éventuellement un peu de musique, et encore, pas tout le temps. Souvent, je mets de la musique un peu quand j'ai besoin de me remotiver. J'ai une playlist en fait. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous verrez ma petite playlist Music Too, où il y a plein de musique un petit peu entraînante et tout ça. C'est pas forcément de la grande musique, hein, c'est plutôt, on va dire, de la pop, c'est plutôt des trucs un petit peu rythmés. En fait, moi j'ai remarqué qu'il fallait un speed. De toute façon, c'est des musiques qu'on dit qui sont les plus efficaces pour travailler. On a parlé souvent de Mozart, de la musique classique, et autrement, c'est les musiques avec un rythme important, dance, disco et tout ça, puisqu'en fait, ça a une pulsation cardiaque. Qui est associé à la pulsation du cœur. Si jamais vous êtes intéressé, si vous faites un stage en fait de tout ce qui est sauvetage, vous verrez que vous apprendrez qu'une des bases c'est Staying Alive, la chanson des Bee Gees. Pourquoi? Puisqu'en fait quand vous êtes en train de faire un massage cardiaque, et il faut compter c'est ah 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 Un Staying Alive. Et en fait, vous faites un massage cardiaque au rythme de la chanson. Parce qu'en fait, ça donne un rythme important. C'est pour ça que moi j'aime bien les musiques rythmées qui vont pas en fait me prendre la tête. Mais d'ailleurs, c'est, j'ai déjà raconté plein de fois dans mes enregistrements, en grande surface, quand vous faites vos courses le samedi, quand il y a beaucoup de monde, la musique est rythmée. Par contre, si vous baladez, faites vos courses le mercredi après-midi ou le matin en semaine, bah, vous verrez très bien que la musique est beaucoup plus calme, beaucoup plus zen. Parce qu'en fait, on veut que les gens prennent leur temps, qui se baladent, qui écoutent la musique tranquillement, qui tandis que le samedi, faut que ça débite, allez hop, ta 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 ta, au pas de charge, voilà. Donc en fait, je reviens encore là-dessus, j'ai encore fait une digression, vous comprenez pourquoi en fait je fais des vidéos longues, hein. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire si vous voulez du long ou du court. Et donc le montage en fait qui nécessite de faire des vidéos courtes, très rythmées, bah, il est assez particulier. Moi j'aime pas trop le faire parce qu'en fait tous les personnes qui font ça en fait ont une coupure ta 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 ta. C'est des plans qui sont très montés et un montage qui est très travaillé et qui est très long. Si vous regardez une vidéo, je sais pas, Norman, Nicolas Penn aussi qui est assez intéressant là-dessus au niveau des montages. Comme il dit, c'est les changements de pattern, il change régulièrement de cadrage, il dit tiens, au fait, je pensais à un truc, ou il dit tiens, regardez, à la fin de la vidéo, vous aurez tel truc. Donc les changements de pattern qui permettent en fait tada de changer de rythme, bah, c'est assez intéressant, mais c'est compliqué à faire dans une vidéo. Ou alors il faut y penser, etc. Moi en fait, je fais ça du one shot. Vous voyez, il est 23h39, j'ai encore les 5-10 minutes, peut-être un peu plus pour vous parler des vidéos. Mais voilà, je fais l'enregistrement au one shot, il n'y a pas de coupure, c'est direct. Et ça me permet en fait de faire de la vidéo qui a de l'émotion, qui est quelque chose qui est direct. Si je vous dis merde, putain, etc., je le dis directement. C'est des choses qui j'ai une trame en fait là de ce que je vais dire, mais ensuite j'invente et je vous explique, je vous donne des anecdotes et je vous explique pourquoi. C'est un petit peu mon style à moi. Voilà. Le troisième point que disait Rudy, qui était assez intéressant également, c'est demander à son public d'agir, un peu comme je l'ai fait là, et vous verrez, dans cette vidéo-là, juste un petit peu avant, je me suis inspiré d'un conseil qui vient juste après, et qui était vraiment intéressant, parce que c'est vrai que je ne le mettais pas assez en avant, c'est de demander aux personnes de commenter là, maintenant, ici. Vous avez vu, je vous ai demandé deux, trois fois là, de me dire est-ce que vous préférez les vidéos longues ou courtes, et c'est quelque chose en fait que j'ai retrouvé dans les commentaires que je vous montrerai juste après d'un autre expert. L'autre chose en fait, j'aime bien, c'est Danilo Duchesne, qui a vraiment réussi à sortir son épingle du jeu. Il était totalement inconnu il y a allez, un an, 2 ans maxi, et il s'est vraiment positionné sur la pub Facebook, qui était un sujet qui était vraiment hyper à la mode. Il a réussi à devenir comme ça quelqu'un de référent dans le domaine. Et en fait, comme il dit, il s'est vraiment précipité sur cette thématique-là, Facebook, et en fait, son créneau a été un de faire du guest posting sur des blogs comme le mien, avec des bons articles, et ensuite faire des articles très longs, chez lui comme chez les autres. Et donc en fait c'est sa marque de fabrique, avec une belle promotion qu'il fait derrière. Voilà. Donc comme Danilo revient aussi un petit peu sur les classiques, hein, raconter des histoires, mettre de l'émotion, etc. Mais il rajoute une petite chose qui est intéressante, c'est pouvoir s'identifier. Il faut qu'en fait que la personne se dise, cette vidéo va m'aider. Comment votre vidéo va l'aider à atteindre ses objectifs par rapport à ce que vous proposez, quelles sont ses peurs, ses frustrations. En fait, quand on trouve ça, ses peurs, ses frustrations, on arrive tout de suite à trouver une vidéo qui va faire réagir. On se retrouve encore une fois dans le domaine de l'émotion, de l'engagement, de l'activité, etc., etc. Voilà. Donc, il faut être précis également, je trouve que c'est assez intéressant, qu'il raconte un petit peu des petites histoires, comme moi je le fais, hein. Je raconte toujours des petites histoires, je raconte des anecdotes, ça me permet de vivre un peu, et c'est vrai que les gens qui ont acheté mon bouquin Le Growth Hacking, si jamais ça vous intéresse, c'est un bouquin qui parle justement comment lancer un produit optimisé, ben, je raconte souvent des petites anecdotes sur ce que j'ai vécu en 15 ans, 20 ans de marketing, et c'est vrai que c'est parfois les trucs des gens disent, ah ouais, mais j'adore tes petites anecdotes, ça c'est ce qui me fait marrer, quoi. Donc l'autre chose, c'était demander de l'engagement. On parlait tout à l'heure précédemment, on disait voilà, il faut inciter les gens à liker. Mais en fait, il disait voilà, quelque chose qui est très intéressant, il disait voilà, au fait, avant de commencer, j'aimerais savoir ce qui a déjà fait de la publicité Facebook parmi vous. Répondez oui si vous en faites, non si vous n'en faites pas. Je suis juste curieux de savoir combien d'entre vous ont essayé de le faire. Autre question, il dit, question ouverte, si vous faites déjà de la publicité sur Facebook, pourriez-vous me dire quelle est la plus grosse erreur que vous avez faite dans les commentaires en dessous? Et en fait, il dit, et c'est ce que j'ai fait tout à l'heure en vous disant est-ce que vous préférez les vidéos courtes ou longues, c'est inciter les gens à réagir dans la vidéo, puisque en fait, le like, le partage et les commentaires sont des éléments qui vont faire que YouTube, mais également Facebook, mais également LinkedIn, vont faire que le post va être plus partagé. Donc c'est super important. Et c'est vrai que moi je le faisais jamais assez. Je mets souvent en mode professoral. Et c'est vrai que c'est pas la meilleure posture. En fait, Il y a différents types de postures quand on fait de la vidéo. Si vous faites du live, si vous faites du Facebook live, si vous faites du Instagram live, si vous faites du live sur toute plateforme, c'est super important de poser des questions, dire allez, qu'est-ce que vous pensez de ça? Laissez un commentaire. Ah tiens, Patrick, merci pour ce truc-là, avoir de l'interaction. Et ça, en fait, moi je le faisais pas parce qu'en fait, je fais des vidéos comme là, vous êtes en train d'écouter, où je dis des choses, je pousse de l'information en mode professeur. Quand on fait du live, c'est pas du tout ça. Et quand on veut faire de la vidéo YouTube qui cartonne, il faut aussi poser des questions comme ça. Et il donne un exemple, Nel Patel, qui est vraiment un marketeur très connu aux States. Et c'est vrai que lui aussi, je vais regarder quelques vidéos. Alors, je suis pas le plus grand fan de Nel Patel, je préfère d'autres marketeurs, mais c'est quand même assez intéressant de voir ce qu'il fait. Voilà. Bon, ensuite il y avait moi. Je voulais vous dire aussi un petit peu la même chose, mais je vais vous donner quelques petites astuces un peu plus techniques. Moi, en fait, c'est pas forcément l'émotion qui m'intéresse, parce que les vidéos, je les fais un petit peu sur ce que j'aime moi. Mais mon premier conseil, c'était de produire du contenu en pensant à sa cible, un persona. Il faut éviter les vidéos hors sujet. Moi, j'en ai pas mal des vidéos hors sujet qui sont pas en fait par rapport à ma thématique. Moi, je me suis reconcentré sur le marketing B2B, la génération de leads, et j'ai quand même un petit peu laissé tomber tout ce qui était e-commerce parce que c'était beaucoup moins en phase avec ce que je fais. Même si je parle encore un petit peu d'e-commerce parce que c'est un sujet qui me passionne toujours et je vends aussi des choses sur internet, ben c'est un petit peu moins ma passion. Et donc j'évite de sortir du lot. J'évite aussi par exemple de faire des vidéos sur d'autres sujets. Il n'y a pas longtemps j'ai parlé de comment devenir slasher, c'est-à-dire d'avoir un boulot et monter une boîte en parallèle. J'ai parlé également d'autres sujets comme le blogging, comme monter et gagner de l'argent avec un blog, etc. Puisque c'est des choses qui m'intéressent moi aussi. Mais en fait, il faut vraiment être concentré sur sa thématique. Donc une fois qu'on a fait ça, en fait, il va falloir essayer d'écrire un petit peu sur YouTube, comme si on écrivait un petit peu pour Google. C'est-à-dire qu'il y a des règles entre guillemets SEO, Search Engine Optimisation, parce qu'en fait, si vous mettez par exemple vos titres comme vous le pensez, comme vous le sentez, ben, ça va pas le faire. Si il faut certes des vidéos pour faire de l'émotion, de la polémique, comme je le disais, mais il faut également penser à YouTube et à la manière dont il fonctionne. Par exemple, en fait, pour le choix du titre de la vidéo, il ne faut pas choisir n'importe quoi. Vous avez deux choix. Soit vous faites comme sur un article de blog, une vidéo émotionnelle, soit en fait, c'est-à-dire que vous allez mettre les pires erreurs que j'ai jamais commises pour mes vidéos. Je vous explique tout et comment pas les faire. Voilà. Bon, le titre est un peu long, mais voilà. Et la deuxième chose, c'est j'écrirais plutôt pour Google et je dirais avoir plus de vues sur YouTube, mais les 10 choses à faire dès demain ou en 2019. Voilà. Et donc, en fait, je mettrai en premier avoir plus de vues sur YouTube, parce que c'est quelque chose qui est hyper recherché, et mes 10 secrets en 2019, qui sont des choses qui sont très contextuelles, qui sont l'année, qui vont dire, ouais, vont dire à l'internaute, ouais, 2019, c'est pour moi. Donc en fait, au début, on met en avant le mot-clé. Comment ça fonctionne également? Parce qu'en fait, il faut choisir les bons mots-clés. Pareil, je dis toujours cet exemple-là, qui est assez intéressant. Quand je travaillais dans le domaine des logiciels, à chaque fois, on avait un petit sujet en disant, est-ce qu'on dit fiche de paie, PAIE, ou paye, PAYE. Et en fait, c'est assez marrant parce qu'en fait, fiche de paye, PAYE, bah finalement, c'est, on va dire, allez, quoi, 4 fois, 5 fois moins recherché que fiche de paye, PAYE. Et donc, il faudrait plutôt utiliser dans un titre de vidéo fiche de paye, PAYE que paye, PAYE. Donc, en fait, il faut penser à ça. Il y a aussi des sujets simples qui sont souvent recherchés. Par exemple, tuto, comment faire, formation A. Et ben tous ces trucs-là, en fait, marchent pas mal. Moi, parfois, je fais des sujets un petit peu internationaux, c'est-à-dire par exemple un tuto sur Podtoon, un tuto sur un logiciel, un tuto sur BuzzSumo, sur Mailchimp, etc., etc. Et ben en fait, je mets plutôt tuto Mailchimp plutôt que formation Mailchimp parce que je sais très bien que j'aurai plus de vues en mettant un terme international comme tuto. Alors après, bien sûr, derrière le truc, c'est que vous allez attirer des gens qui sont pas en France et donc ça va pas être vos clients. Donc c'est un petit peu dommage, mais quelque part, ça permet quand même d'augmenter un petit peu ses vues. Voilà. Puis en mettant tuto, vous allez récupérer aussi des Français là-dedans. Voilà. Donc il y a des éléments un petit peu techniques qui sont intéressants, c'est les mots-clés. Les mots-clés, en fait, bien sûr, il faut les remplir. Vous avez en fait un petit indicateur pour savoir combien de mots-clés vous pouvez mettre et tout ça. Je ne sais plus exactement la limite, mais en fait, il faut vraiment. Moi, j'essaye de bourrer à chaque fois mes commentaires de vidéos importantes avec des mots-clés. Mais ensuite, il y a une petite astuce qui est en fait la suggestion de vidéos. En fait, quand vous lisez une vidéo, vous savez, en bas à droite, vous avez les vidéos suggérées par YouTube. Et une petite astuce consiste à aller copier-coller exactement le titre de la vidéo la plus vue dans cette thématique-là dans vos mots-clés. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous faites une vidéo sur comment créer un blog. Okay. Vous vous dites, tiens, j'aimerais bien capter les vidéos qui sont les plus vues sur comment créer un blog. Donc vous tapez dans Google comment créer un blog, vous regardez les vidéos qui sortent. Et souvent les vidéos, il y a marqué comment créer un blog en 2019, la méthode de Bidule. Donc vous allez copier exactement, vraiment exactement le titre de la vidéo et vous allez mettre dans votre commentaire. Et là, vous aurez plus de chance. Alors, je ne vous dis pas que vous allez sortir à chaque fois, parce que forcément, YouTube, il sélectionne les vidéos qui sont le plus vues, qui ont le plus de commentaires, etc. Mais à parts égales, si y a deux vidéos similaires et qu'il y en a une qui a les bons mots-clés dans les commentaires, et bien, vous risquez de sortir plus que cela. Voilà. Autre chose, et c'est ce que je fais actuellement, c'est faire un screencast de vos meilleurs articles. En fait, il faut vraiment penser multicanal. Si vous faites un article de blog et puis vous dites ouais, c'est un très bon article, et puis voilà, c'est fini, non. Il faut aller l'enregistrer en screencast comme je le fais, le publier après sur Vimeo, sur YouTube, sur SoundCloud, sur Audioboom, sur iTunes, etc. etc. Ça permet comme ça en fait de capitaliser sur ce que vous avez fait. Ensuite, ben, vous pouvez les uploader donc, sur ces différentes plateformes. Et il existe même des petits outils assez sympas. Si vous voulez faire des podcasts facilement, c'est Euphonic, Euphonic.com, qui vous permet en fait de transformer des vidéos en même n'importe quel truc, hein, format audio aussi, vous pouvez le faire en MP3, en vidéos qui vont être après publiées sur différentes plateformes. Donc en fait, vous pouvez publier sur SoundCloud, sur Facebook, sur YouTube, etc. etc. Donc c'est vraiment assez intéressant. Voilà. Bon, les lives également, on peut les réexploiter. Mais moi, souvent, en fait, les gens me disent les lives, quand tu es en live dans la rue, etc., le son n'est pas terrible. Donc faites attention, ça peut être assez déceptif là-dessus. Voilà. Les websem également, moi je les réexploite. Les interviews, j'utilise pas mal ça en mode guerriero. Avant, en fait, je me baladais avec un pied qui faisait plier, il faisait quoi, les 50 cm ou 60 cm. J'avais donc un micro aussi que je trimbalais avec une rallonge de 2 mètres. J'avais mon réflexe. Et en fait, à chaque fois que je me baladais comme ça, j'avais quasiment un sac à dos pour partir en vacances. Et depuis, avec l'arrivée des smartphones, en fait, c'est vraiment devenu hyper simple de filmer. Maintenant, en fait, je prends mon nouveau Samsung S9 là, que j'ai eu il n'y a pas longtemps, il y a 2 jours. Et donc, en fait, je prends mon matos, donc un micro-cravate. D'ailleurs, j'en ai même deux. Deux micro-cravates SmartLav de Rode. Ça coûte 50 € pièce. Mais en fait, l'intérêt d'avoir deux micros, c'est qu'en fait, vous pouvez avoir les deux personnes qui parlent. Parce qu'avant, j'en avais qu'un seul. Et quand je posais une question, on m'entendait à peine ou en bruit de fond, tandis que maintenant on m'entend vraiment exactement pareil. Alors pour cela, en fait, pour que ça fonctionne, il faut un doubleur Rode. Donc en fait, c'est un doubleur qui vaut 14 € et qui permet de brancher un casque et 2 micros. Et donc c'est pas mal. Prenez également la rallonge Rode. La rallonge Rode qui vaut 18 €, ça permet en fait d'avoir un interviewé qui est beaucoup plus loin que de vous et pas être juste à côté. Autrement, lié à ça, vous avez l'adaptateur smartphone qui permet en fait d'adapter, de coincer en fait votre smartphone et de le mettre sur un petit trépied d'appareil photo. Ça coûte 6 € et sincèrement, c'est super pratique. Les derniers points, moi j'utilise un pied Vanguard de 57 cm. Alors vous allez me dire, 57 cm, ça ne tiendra jamais dans ta poche. Et bien si, parce que tout replié, ça tient dans la poche d'une veste. Alors pas une veste de costume, hein, une veste de sport. Moi j'ai une doudoune et je me mets dedans et en fait ça tient dedans nickel. Donc en fait, avec ça, moi dans ma poche, je peux faire une interview. J'ai pas besoin de me balader avec un sac à dos comme si je partais en voyage. Voilà. D'autres choses également, j'utilise pas mal aussi, j'en parlais tout à l'heure des mots-clés, des outils comme SEMrush, Infinite Suggest, Answer the Public pour découvrir les bons mots-clés parce que parfois en fait on ne sait pas quels sont vraiment les clés et les mots-clés les plus intéressants. Alors Infinite Suggest et donc Answer the Public c'est plus pour trouver des mots-clés supplémentaires. SEMrush est beaucoup plus pratique parce qu'il vous permet en fait d'avoir des idées de mots-clés. Par exemple, vous tapez tout à l'heure, je disais comment monter un blog, et bien en fait vous tapez ça dans SEMrush et vous dira bon comment monter en blog, ça fait allez 100 vues sans recherche sur Google, et puis en fait il vous dira que comment créer un blog WordPress, ça en fait 5000, et vous dites oh putain, moi je vais pas créer un blog, je vais pas choisir créer un blog, je vais créer un blog WordPress. Voilà. Une petite astuce également, vous pouvez ajouter en automatique des mots-clés depuis votre paramétrage de chaîne YouTube. Donc vous allez dans YouTube, vous allez en fait dans paramètres par défaut des vidéos mises en ligne et vous pouvez en fait donc ajouter quelque chose dans le titre et vous pouvez en fait mettre dans la description quelque chose et vous pouvez aussi ajouter des mots-clés. En fait, vous pouvez ajouter des mots-clés par défaut. Et c'est vrai que moi, ça m'aide bien parce que des fois, en fait, bah, je suis un peu feignant. Je pose la vidéo et je dis, bon, allez, hop, je la mettrai à jour plus tard quand je ferai un article dessus et que je fais une transcription et tout ça. Et finalement, la vidéo, elle bouge pas et elle n'a pas de mots-clés. Tandis que là, en fait, elle a un minimum de mots-clés dès le départ. Bon, après, la fonction que j'utilise très peu, ce qui est première diffusion, ça, j'utilise pas à mort. Par contre, ça m'arrive en fait de temps en temps de faire des diffusions live, comme je vous disais, sur YouTube ou ailleurs, en disant tiens, rendez-vous à telle heure, à telle date, pour une vidéo. Et là, en fait, c'est assez sympa d'avoir un petit peu d'événementiel. Je trouve que c'est mieux que première diffusion. Mais bon, vous pouvez faire les deux, y a pas, enfin les deux. Vous pouvez utiliser deux techniques, il n'y a pas de souci. Alors, autre chose, donc c'est bien sûr mettre en place un dispositif de com si vous faites cette vidéo live. Hein, ne faites pas ça dans le vide. Moi, ça m'est arrivé de faire des lives comme ça sur Facebook ou sur YouTube avec trois personnes qui regardent parce que je le faisais le midi à la pause, parce qu'en fait, je faisais ça entre de réunions, de rendez-vous, etc. Donc, quand vous faites un live, essayez de faire une bonne promo. Voilà. Le dernier point, ce que je voulais dire, c'est les logiciels d'automatisation. Bah, en fait, il faut automatiser. On a parlé beaucoup d'humains, beaucoup de customer centric, de penser en fait aux personnes, mais c'est bien aussi d'automatiser des choses qui n'ont pas de grande valeur ajoutée. Moi, j'utilise par exemple un logiciel qui s'appelle Jarvie, qui est assez intéressant et qui permet tout simplement d'aller suivre des gens, d'aller liker des vidéos et tout simplement de le faire de manière automatique. Donc, c'est un petit logiciel de growth hacking qui coûte une trentaine d'euros par mois à peu près et qui vraiment, mine de rien, et très simplement, va vous permettre en fait d'aller faire croître votre communauté. Alors, vous attendez pas un truc de ouf. Moi, je l'ai utilisé depuis quelques mois. Ça m'a apporté quelques visiteurs en plus, enfin, par jour ou par semaine. Enfin, bon, voilà, j'ai bien vu qu'il y avait une différence. Ça n'a pas été une croissance exponentielle, mais j'ai bien vu que ma croissance en fait d'abonnés était un peu supérieure à ce que j'avais avant, alors que bah, j'ai pas changé mon rythme. Donc, en fait, ça m'a vraiment donné quelque chose. Puis, j'ai eu des gens qui m'ont dit, tiens, merci d'avoir liké ma vidéo. Ou merci d'avoir liké ma chaîne, c'est sympa, j'ai découvert en même temps la tienne, tu fais des choses assez sympas. Voilà. Alors j'en ai pas eu 10, hein, j'en ai pas eu 100, j'en ai pas eu 1000, j'en ai eu quoi, allez, 20 ou 30 personnes qui m'ont dit ça, mais c'est déjà pas mal parce que c'est des gens qui généralement bah, ont liké, ont commenté, ont partagé, etc. Voilà. Autrement, donc Olivier Lambert aussi, ben, il a raconté des trucs un petit peu assez sympas. Donc en fait, il a parlé également de choisir un angle original. Il a parlé d'un truc qui est assez sympa aussi, c'est écouter sa propre vidéo. Alors moi, je le fais pas. Là, la vidéo que vous faites, ben, je vais pas la couper, je vais pas la réécouter parce que ben, ça prend du temps et puis je sais ce que j'ai dit et j'en suis assez content. Et si même j'ai fourché, j'ai un peu été pas terrible, ben, ça me suffit largement. Mais lui, en fait, il se place dans le domaine des youtubeurs. Comme je disais, c'est un autre métier pour moi, youtubeur, où tu fais de la retouche vidéo, où tu fais vraiment du montage qui est super interactif, etc. Et il disait que si on veut faire ce genre de vidéo-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut en fait travailler certes l'image, travailler certes le titre, mais dans les 15 premières secondes, en fait, il faut véritablement faire un teaser. Et il parle de Dali A, un youtubeur sur Fortnite, enfin, qui YouTube sur Fortnite, et en fait qui met généralement dans une vidéo, dès les 7 premières secondes, un teaser de ce que les gens vont voir. Eh, hey, vous allez voir dans la vidéo un truc qui est vachement super, etc. Donc en fait, c'est créer tout simplement de l'anticipation, créer de l'envie et d'inciter les gens à continuer. Donc après, il continue aussi sur le truc classique qui est, bah voilà, abonnez-vous parce que ceci, cela. Et en fait, autrement, bah, bien sûr, il parle aussi du like et tout ça. Et pareil que Danilo, il dit, voilà, like si tu aimes ceci, cela. Bref, en fait, il accepte un petit peu de faire tous ces trucs-là. Donc laissez les commentaires. Voilà, et tout à l'heure, comme Danilo, il dit, voilà, faites-moi part de vos questions dans les commentaires, etc. D'ailleurs, si vous aussi, hein, vous avez des questions, bah, je suis vraiment à votre dispo. Posez-moi une petite question d'ailleurs dans les commentaires sur les vidéos. Si d'ailleurs vous avez des idées de vidéos ou de sujets qui vous intéressent, dites-le moi. Je vous dis que je me concentre plutôt sur le marketing B2B. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant de répondre à quelques FAQ. À quelques FAQ, hein, quelques questions, frequently asked questions, mais des questions que vous avez, bah ça me ferait plaisir. Tiens, j'en prendrai peut-être une ou deux en commentaire, et je ferai peut-être dans les commentaires, je ferai peut-être une vidéo spéciale. Donc voilà, si vous voulez que je parle un petit peu d'un sujet qui vous intéresse, bah, dites-le moi et puis ça me fera plaisir d'en parler. Autrement, bon, Cédric Warraux, pareil, en fait, qui réexplique comment réussir à faire des vidéos. Là, encore une fois, c'est de la vidéo très ciselée. C'est des vidéos de YouTube, comme il dit, voilà, il préfère les vidéos courtes, 1 à 3 minutes. Bon, moi, personnellement, en 3 minutes, j'ai pas le temps d'apporter suffisamment de valeur. Moi, j'ai envie de donner des exemples, j'ai envie de parler des choses. Ça me fait chier, moi. J'ai fait des vidéos, je vais vous dire clairement, j'ai fait des vidéos, c'était moins d'une minute 20, c'était avec Marc-Lionel Gâteau de MLG Consulting. Et en fait, on avait un studio fond vert, on avait ciselé les textes et c'était comment tout savoir le enfin tout connaître du CRM en 1 minute. En fait, j'ai fait quoi? 15-20 vidéos, c'est des vidéos en plus qui étaient bien montées, avec des incrustations vidéo, etc. Et finalement, ces vidéos ont jamais cartonné. Parce qu'en fait, c'était des sujets un petit peu génériques, il n'y avait pas forcément beaucoup justement d'interactions, c'était, ben, voilà, j'explique comme un prof, et sincèrement, c'était pas terrible. Donc en fait, c'est pour ça que moi, je préfère des vidéos longues, et si vous voulez faire des vidéos courtes, il faut vraiment capter l'attention dès le départ, proposer vraiment des choses directement et de la valeur immédiatement, et c'est pas facile à faire. Voilà. Donc Cédric rappelle aussi que pour la vidéo le son est important. Et c'est vrai que ça, je m'en suis rendu compte il y a à peu près un an de ça. En fait, moi je faisais des vidéos. Si vous me suivez depuis un petit moment, bah, vous avez sans doute mes vidéos, vous avez aussi mes podcasts. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, moi j'enregistrais, bah, là comme maintenant, je suis dans mon salon, là, je suis sur ma chaise devant mon PC. Et en fait, j'étais en train de parler avec mon casque, et j'essayais donc de travailler un peu plus le son, mais sauf qu'en fait, je me faisais pas chier, je retouchais pas le son. Et en fait, il y a pas mal de gens qui disaient, ouais, mais j'aime pas tes vidéos parce qu'on entend quasiment rien. Bah oui, puisqu'en fait, j'avais pas réglé le son à son max, et c'est vrai que pour moi, je l'écoutais sur mon PC, et puis de toute façon, s'il fallait, bah, j'augmente le son, j'augmente le volume, je peux écouter sur ma chaîne, donc moi, ça me pose pas de soucis. Sauf qu'en fait, les gens qui étaient dans les transports, dans leur bagnole, et bien ils me disaient, mais non, j'ai arrêté d'écouter ton podcast, de regarder tes vidéos parce que le son est pas assez fort, j'ai oublié de mettre un max, j'entends pas assez. Voilà, donc en fait, c'est un petit truc tout con, mais c'est vrai que le son est vraiment important, retravailler toujours un petit peu ça. Voilà. Autrement, bah, je crois que c'était à peu près tout, hein. J'avais donné un petit peu les grandes règles, hein. Vous pouvez regarder tout simplement l'article en entier, bah, je vais pas aller beaucoup plus loin. Donc vous allez sur Videotelling et vous verrez en fait les différentes interviews et enfin les différentes réponses à l'interview. Et je crois que vous pouvez même avoir un petit bouquin, les 21 commandements pour avoir plus d'engagement dans vos vidéos, quoi. Alors bon, c'est pas sponsorisé. Hein, vous faites ce que vous voulez. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, puis à très bientôt. Donc oui, laissez-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir aussi d'avoir de vos news pour savoir ce que vous pensez de mes petits conseils. Et puis bien sûr, si vous préférez vidéo courte, vidéo longue, hein, je suis assez curieux de savoir ce que vous préférez. Allez, à ciao ciao, bye bye.